Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Voyage Essence, co-animée par Julien Perrault et Patricia Penaud. Bonjour Julien.
Bonjour Patricia.
Bonjour à tout le monde.
Salut.
Aujourd'hui, nous allons parler de la Tunisie et nous allons essayer de vous faire voyager un petit peu par rapport aux villes, aux pays, aux légendes.
Tout à fait.
À l'alimentation. Enfin, on va essayer de vous faire voyager un petit peu pendant cet espace de temps de l'émission.
C'est ça. À l'image de la dernière émission qui était sur les Cyclades.
Tout à fait.
Donc on enchaîne.
Oui,
Commençons par l'histoire de la Tunisie.
L'histoire de la Tunisie. Alors, Julien, est-ce que tu sais d'où vient le nom de Berbère ?
Pas du tout.
Berbère qui apparaît la première fois après la fin de l'Empire romain. Et en fait, c'est un terme, au départ, on disait barbare.
D'accord.
Barbare qui était utilisé à partir du thème grec barbaros.
D'accord.
Et qui voulait dire étranger.
Mm-hmm.
Et c'était volontiers relié aussi à l'idée d'homme libre. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le peuple tunisien, essentiellement donc les berbères, représentent la valeur de la liberté à l'intérieur du pays.
Alors ça, c'est marrant quand même. La liberté revient souvent, hein. C'est quand même incroyable. On a beau aller aux quatre coins du monde, cette notion de liberté revient quasiment tout le temps. Donc, comme si on était de nature innée à être libre.
Oui, tout à fait. Alors après, il y a certainement plusieurs manières d'exprimer la liberté. Et dans ce peuple berbère, c'est l'idée du rebelle qui est présent, le rebelle organisé en groupe, du récalcitrant. Donc, c'est vraiment une liberté qui se veut aller au-delà de toute contrainte avec tous ces peuples qui en fait naviguent dans les différents espaces de la Tunisie, dans les déserts et ce qu'on appelle les nomades.
Les nomades, ouais. Cette fameuse liberté qu'on a perdue parce que finalement c'est vrai qu'on était tous des nomades quand même à l'époque.
Et oui, et la valeur de la liberté est vraiment très très forte, liberté des grands espaces, et on retrouve le fameux désert du Grand Sud tunisien. Mm-hmm. Tu l'as visité déjà ?
Tout à fait, oui. C'était d'ailleurs une expérience magique, mais comme beaucoup des déserts, hein, je trouve que ce désert a peut-être une particularité, c'est qu'il n'a pas énormément de... On a toujours tendance à imaginer des grandes dunes énormes, un peu comme dans les films. On ne retrouve pas forcément toutes ces dunes, mais c'est une atmosphère qui est, malgré tout, je trouve assez particulière. Voilà.
Oui, la liberté qui fait, en fait, ces grands espaces qui font toucher cette liberté en nous, c'est vraiment une bonne manière de se vider complètement l'esprit.
Connexion avec la nature totale.
Connexion avec la nature, le
silence,
vent.
Silence, zéro.
La clarté du ciel.
Parfait.
L'horizon ouvert.
Tout à fait.
Et ici, le monde est simple.
Tout à fait. Et surtout des berbères magiques.
Liberté de vie.
Exactement.
Sans sophistication, je vais y arriver, de
c'est
technologie.
Ça. Tout ce que, en fait, finalement, la modernité nous a apporté de, quelque part, peut-être un peu de néfaste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du positif dans les technologies, mais quand même, je pense que ça a pris le dessus sur pas mal de choses, dont peut-être aussi cette notion de liberté qu'on avait, qu'on nous a repris.
Comme une sorte de retour aux sources, en fait.
Quelque part,
on
ouais.
peut trouver dans,
ouais.
dans ce désert.
Mm-hmm.
Alors, le désert aussi, c'est la guerre des étoiles.
Luke Skywalker.
Luke Skywalker.
Évidemment, et Tatooine.
Tatooine, Mat Mata, les Jedi, que la force soit avec toi, Julien.
Merci, Patricia. Oui, Tatooine, c'est assez marrant de se rendre sur place parce qu'ils ont conservé une petite ville. Ouais, on peut considérer que c'est une petite ville du tournage, justement. Et pour tous ceux qui sont fans, il faut vraiment y aller parce que ça vaut le coup quand même d'être sur place.
Comment s'appelle ce village ?
Eh bien, c'est à Tatooine.
Tatooine.
Tout à fait.
On retrouve aussi entre Tozer et Nefta la grande dune qui était dans l'épisode 4 avec la courbure arrondie.
Ah oui, exact, oui. Tout à fait, ouais. Tu es fan de Star Wars ?
Ouais, j'aime ouais. bien. Moi, j'aime bien les films qui nous font voyager dans des mondes non connus et de science-fiction.
Ouais, on est d'accord. Je crois qu'on fait partie de cette génération qui a aimé Star Wars. Ouais.
En tout cas, l'avantage du désert, c'est qu'on sort vraiment de cette notion du temps.
Oui.
De cette chronologie du temps qui, aujourd'hui, est quand même une source de pression extraordinaire.
Clairement, ouais, c'est une petite parenthèse enchantée.
Pas de chrono.
Non.
Ni intérieur, ni extérieur.
Mm-mm.
Donc, c'est vraiment l'avantage de pouvoir, dans ce pays, aller vivre et contacter cet aspect-là de nous-mêmes et de la vie.
Tout à fait, oui.
Super ressourçant.
Et alors, ce qui est aussi, enfin, moi, ce qui m'a marqué dans ce trip, c'est aussi les Berbères. En fait, ils ont, pour la plupart, ils ont, enfin, pour certains, en tout cas, avec qui on était, ils ont gardé quand même ce mode de vie qui est quasiment ancestral. Et la parole peut très bien ne pas avoir lieu. Et les regards et les gestes qu'ils peuvent avoir transmettent quelque chose qui est énorme. Tout se lit en fait quelque part sur leur visage, un peu comme si on avait coupé un tronc d'arbre et qu'on regardait les stries pour savoir quel âge il a. On voit tout en fait sur leur visage et sur leur façon de se comporter pour peu qu'on observe. Et alors ça, c'est assez impressionnant à voir. Ouais.
Une communication non verbale en réalité.
Ouais.
On se contacte et on se connecte d'une autre manière, plus peut-être au
Ouais.
niveau du cœur et de la
Complètement.
sincérité
Oui,
vraie,
exactement.
que
Ouais.
le langage qui parfois nous met une barrière
Ouais.
entre.
On est sur des moments simples, il faut aller chercher le bois pour faire du feu, tout le monde participe justement pour organiser ce petit moment festif autour d'un feu. Et quoi de mieux que le feu pour rassembler les hommes? Ça, je connais pas.
Et en plus, enfin, les Berbères ont une valeur de la famille qui est et de l'hospitalité, donc comme effet rebond, qui
Tout
est
à fait.
super marqué.
Bah oui, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup en Afrique, de manière un peu globale. Qu'on y aille au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y a cette notion de famille qu'on a peut-être, nous aussi, en France et peut-être dans d'autres pays en Europe, un peu perdu, malgré tout, même si se sent un petit peu latin. Et c'est très marqué, oui, effectivement, en Afrique, on a tout de suite cette notion d'accueil et c'est formidable.
Oui, ils accordent beaucoup d'importance à la sécurité de leurs enfants,
Oui.
au niveau de leur famille, et ils essayent vraiment de, par rapport aux pays de Nord-Afrique, de développer l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui n'est pas forcément toujours une si grande évidence que ça.
Tout à fait, ouais, et ça a été même très compliqué il y a encore quelques années, hein, tout le monde s'en rappelle. Et moi j'y suis allé quasiment un an après, on disait que c'était encore dangereux, il fallait surtout pas aller. On a fait quasiment 1 200 km en Jeep, et pour le coup, bah, tu me connais, hein, moi j'étais hors sentier battu, j'étais rencontré les gens, et ça n'avait strictement rien à voir avec l'image qui était véhiculée évidemment de par les médias. Et ce qui m'a évidemment un peu aussi interloqué, c'est quand même, oui, il y a une espèce de fracture quand même entre l'homme et la femme. La femme a une place dans la famille qui est différente évidemment de l'homme, comme si les valeurs qu'on pouvait avoir il y a 2 siècles en arrière étaient encore présentes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais disons que moi j'ai l'impression que la modernité nous a fait perdre aussi ces valeurs de l'homme et la femme. Chacun a sa place. Il n'y a rien de machisme hein, derrière tout ça, mais on les retrouve beaucoup, je trouve ça, ces notions en Afrique.
Et de toute façon, la place est importante, que ça soit au niveau de l'homme, au niveau de la femme, au niveau des enfants.
Ouais.
Alors, quand on pense aux valeurs de la famille, en fait, qu'est-ce qu'on aurait envie d'y retrouver pour élargir un petit peu le débat?
Ah, peut-être plus de cohésion, plus de rassemblement, et puis beaucoup plus discuter. La télé nous coupe de toute discussion, notre iPhone, toutes ces technologies sont juste horribles pour la communication dans une famille. Et peut-être que ça serait bien quand même de retourner à ces valeurs fondamentales, de discuter autour d'un plat, de se faire un petit feu pour ceux qui peuvent,
Dans le jardin,
dans le
quand on en
jardin.
a.
Ouais. Ces notions de base, je pense, ils ont été vraiment oubliées avec le temps et malheureusement, je pense que les technologies ne nous ont pas trop aidés, oui, pour ça. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Une famille idéale, ça serait
Une
quoi?
famille idéale, déjà, le respect et l'amour.
Ouais, clairement.
L'amour qui sous-tend l'engagement d'amour envers l'autre est primordial. Et on voit bien des fois des familles où l'amour a été mis de
Ouais.
côté, il n'est plus vraiment présent, il a été blessé. Et je crois que ça, c'est vraiment des valeurs importantes qui tiennent compte de tout ce qui est de l'affectivité, de la reconnaissance de l'autre. L'authenticité. On se permet, on se donne le droit d'être tel que l'on est
Ouais.
sans vouloir se cacher. Mais tout ça, ça demande du boulot.
Ça demande beaucoup de travail, il faut déjà que les parents soient un peu préparés, hein.
Et de la générosité réciproque, parce que parfois on se rend compte que l'un est peut-être plus généreux que l'autre, ou il ne fait pas suffisamment attention,
Ouais.
et la générosité, là aussi, équitable est importante pour moi. Et un autre aspect, une autre valeur, c'est la bienveillance, parce que de toute façon, on n'est pas parfait, alors il y aura bien
Non,
des
c'est
moments
clair.
où il y a des manières de dire, de faire qui peuvent pas convenir à l'autre, mais la bienveillance fait qu'en général, ça va aider, ça va soutenir à faire un pas suivant. Et puis, des vertus comme l'honnêteté et la confiance sont des bases primordiales, parce que si tu n'as pas confiance, ou un minimum, ou si c'est restreint, ou l'honnêteté, ou des choses qui sont cachées ou pas dites, ça encombre quand même beaucoup l'évolution d'une famille.
Légèrement, oui. Alors, est-ce que ça serait utopique?
Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'imaginer qu'on peut y arriver à partir du moment où, voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible.
Je
On
crois
est
que c'est
alors
surtout ça,
des choix
oui.
aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre au niveau d'une famille? Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre? Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, qu'est-ce qu'on accepte? Ça, c'est le respect. Est-ce qu'on accepte d'être maltraité ou pas? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux bien imaginer que plus on avance dans la conscience de soi et plus ces valeurs prennent de l'importance et plus on a envie, pas de rester que dans la conception, mais aussi de le manifester concrètement, quoi.
Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que la famille, les familles en Tunisie sont dans ce cas-là?
Ben, en tout cas, je dirais que pour certaines de ces valeurs, ils essayent
Tout à fait.
d'y mettre, quoi,
Et ils les
dans
gardent.
ce respect, de les garder. Alors, bien sûr, tout n'est pas forcément parfait aux yeux d'un Européen,
Non.
hein, c'est évident. Mais en tout cas, ils essayent vraiment de les mettre en place. Et puis, l'accueil et l'éducation de l'enfant qui représentent vraiment
Tout à
une
fait, ouais.
joie pour la famille, pour les parents, mais aussi il y a une notion de la famille beaucoup plus élargie que nous
Tout
pour
à
les
fait.
grands-parents, les oncles
Et
et les
les amis,
tantes,
ouais.
les amis, qui fait que effectivement l'accueil et l'éducation de l'enfant va au-delà simplement que du couple.
Puis ça va, oui, comme tu dis, ça va aller même au-delà parce qu'ils sont dans beaucoup de familles, il y a encore une assiette vide prête pour la personne qui pourrait passer dans le coin et qui aurait faim, quoi. Un ami, une personne qui voyage. Et ça, c'est pareil, c'était des choses qu'on avait encore en France, qu'on
Oui,
ne fait plus.
qu'on a
Donc,
perdu.
ouais, totalement.
Et donc on pourrait ben, retrouver volontiers, parce
Ouais.
que l'idée c'est qu'effectivement ces valeurs qu'on découvre dans d'autres pays, pourquoi pas les ramener chez soi
Tout à fait.
si ça nous convient et si ça, voilà,
Ouais.
on y voit un intérêt sympathique pour les uns et pour les autres.
Mikasa et Tsukasa.
C'est ça.
Alors moi, je voudrais revenir sur une chose qui me tient à cœur. C'est comme je te disais il y a 5 minutes, quand je suis parti en Tunisie, on était dans une période où quasiment tous les médias, télévision, radio, presse y compris, mettaient l'accent sur le fait qu'il fallait absolument pas aller sur place parce que c'était très dangereux. Et donc malheureusement, ça touche quand même beaucoup de destinations où on est très influencé par les médias. Mais ça, bon, on est influencé de manière globale, mais sur ces destinations, encore plus, je trouve. Et ce que je voudrais dire, mais je crois qu'on en parlait aussi dans l'émission en Grèce, c'est qu'il ne faut pas se fier à 100% à ce qui est véhiculé par les médias. Surtout pas, quoi. Une fois de plus, moi, je me suis rendu en Tunisie un an après, alors que c'était censé être encore très très chaud sur place. J'ai fait 1 200 km en voiture, j'ai été voir les gens, j'ai dormi chez eux, j'ai participé à plein de choses. J'ai découvert un peuple qui était superbe, qui était très accueillant, qui avait envie de faire beaucoup de choses, qui avait une générosité débordante, tout l'inverse de ce qui était véhiculé en fait par les médias. Et donc du coup, bah, évidemment, ces pays-là aussi, comme on est tous alimentés quasiment par le tourisme, bah, ils subissent, alors que ce ne sont pas les premiers pays à avoir beaucoup d'argent, ce que font les médias. Donc renseignez-vous bien quand même avant de partir dans une destination. Et c'est pas parce qu'au journal on vous dit là, monsieur, il y a une bombe qui a explosé à Marrakech qu'il faut plus aller au Maroc. Surtout pas, quoi. Voilà.
Puis d'autant plus qu'en général, les agences de voyage sont pas dingues, quoi.
Ben non.
S'il y a du danger, le voyage sera
Évidemment.
annulé, même si c'est en dernière limite.
Mais bien sûr.
L'idée, c'est pas que les touristes s'en aillent et puis qu'ils ne reviennent pas.
Tout à
Hein,
fait.
normalement, voilà, la responsabilité, le sens, la valeur de la responsabilité est là. Et l'idée, c'est qu'on va dans le pays, mais on revient aussi, quoi.
Exactement. Et ces pays-là, mais tous les pays de manière un peu globale, nécessitent de se découvrir hors sentier battu. Il faut arrêter d'aller sur des plages et bronzer toute la journée, aller à la rencontre du peuple, goûter leur gastronomie, discuter avec eux, découvrir la région, mais restez pas uniquement sur Djerba, par exemple. Djerba est très bien, hein, ceci dit en passant, mais vous êtes dans un pays, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir.
Ah oui, Nefta, le symbole du miracle oisien. Plus de 150 sources, tu savais ça,
Ah non, je savais
irriguent
pas.
sa corbeille de palmiers.
Ah oui.
300 hectares de palmeraies qui sont
Exact,
à
oui,
ses
ça
pieds,
c'est vrai.
avec le bruit du vent,
Ok.
de l'eau dans, voilà, qui sont là. Par contre, juste un petit inconvénient, parfois on voit les détritus qui sont balancés là, parce que la
Ah.
notion des poubelles, c'est pas tellement leur fort.
D'accord. Ouais, bon, alors ça, c'est pas le cas partout, aussi,
Non.
une fois de plus. Mais bon, effectivement, il ne faut pas non plus oublier que c'est un pays qui est en train de se reconstruire aussi, hein. Il y a plein de choses qui se font. Il y a énormément de chambres d'hôtes qui sont en train de se développer, des chambres d'hôtes troglodytes, des chambres d'hôtes de luxe, des chambres d'hôtes de charme, des hôtels aussi de petites structures qui sont tenus soit par des Français, soit par des Tunisiens. Évidemment, on n'en parle pas dans les brochures des grands tour opérateurs, mais ça existe. Il y a vraiment un moyen alternatif de voyager en Tunisie. Et dans d'autres pays d'ailleurs. Donc c'est pareil, renseignez-vous.
Oui, des voyages un peu hors sentier
Tout
battu,
à
hein,
fait, tout à fait.
c'est ça qui va permettre de découvrir les petits bijoux et les petits joyaux
Exactement.
au niveau de ces endroits-là. Alors, on a parlé un peu des lieux et qu'est-ce qu'on y mange?
Oh là là, on y mange
Alors,
beaucoup, beaucoup,
vas-y,
beaucoup, beaucoup.
raconte un
Alors, il
peu.
y a une chose qu'il faut prendre aussi, qui est assez importante, mine de rien, c'est que pour tous ceux qui n'aiment pas le piment, il faut s'y préparer parce qu'ils mettent du piment quasiment dans tous les plats, quoi. Donc moi, il y a des petits plats moi, que j'aime beaucoup qui s'appellent donc c'est une entrée en fait, ça s'appelle le shorba, c'est une soupe juste excellente. Il y a des briques à l'œuf, ça je crois que tout le monde un peu connaît. C'est un peu
C'est bon les
dans
briques à l'œuf,
ouais,
ça.
c'est un peu dans le même style qu'en Turquie. Les salades tunisiennes sont excellentes, le tagine évidemment. Alors ça c'est du vrai tagine. Quand vous allez justement comme ça dans les chambres d'hôtes, vous allez goûter à du vrai tagine et pas le tagine que vous allez faire chez vous ou le tagine que vous allez manger dans un restaurant. C'est du vrai tagine.
Oui, pas celui qu'on trouve dans les grands hôtels touristiques,
Ouais,
etc., quoi. C'est là
exactement. Bah
l'intérêt
oui.
d'aller dans les
Ils mettent
petits lieux sympas.
quasiment toute la journée à le préparer. Donc c'est fait avec amour. En plat évidemment on trouve du
Ah
couscous,
bah, un
forcément.
couscous tunisien.
On trouve la koucha aussi, c'est de la viande cuite à l'étouffée au four, qui est aussi excellente. Enfin, il y a plein de plats. Les desserts, alors, vous connaissez, je pense,
Ah, les pâtisseries, c'est bon.
les cornes de
Ah,
gazelle.
les cornes
Oh
de
là
gazelle
là
tataouine, ça.
là. Oui, tout à fait, ouais.
Les excellentes que
Tout
j'ai eu
à fait.
l'occasion de goûter, Royal tataouine, cornes de
Exactement, ouais.
gazelle.
On mange très très bien. Il y a vraiment de quoi, je le dis souvent, mais je le mets entre guillemets, de quoi se péter le bide, parce que c'est vraiment très très bon. Il y a aussi des plats très fins. Enfin voilà, il y a une gastronomie à découvrir sur place qui est vraiment top. Ouais.
Ça donne envie, hein?
Bah écoute, je recommande à tout le monde d'y aller.
Alors, si on revient, on quitte un peu l'alimentation et puis j'aimerais revenir à d'autres vertus qui ont été assez déployées en Tunisie, qui sont la patience, la foi et l'endurance.
Tu m'étonnes, ça c'est sûr. Ça fait partie de ces pays, mais je pense que l'Afrique, de manière globale, englobe toutes ces valeurs. Quand tu regardes de près, quand même, il y a quoi se faire tout petit, hein, quand même, à côté d'eux, quoi.
Et on retrouve beaucoup ça dans leurs écrits, que ce soit dans les légendes ou dans des récits. Et d'ailleurs, j'ai un récit que j'aimerais bien
C'est ce que tu me disais,
vous
oui.
partager ici. C'est le récit du prophète Ayoub qui est envoyé au peuple de Mésopotamie et qui illustre en fait ses vertus de manière magistrale. Alors
D'accord.
préparez-vous psychologiquement parce qu'il y a une partie qui n'est pas forcément des plus sympathiques, mais vous allez voir. Alors
Ça fait partie de leur histoire.
ça fait partie de leur histoire. Alors c'est en fait Allah qui avait comblé son prophète de privilèges immenses. Il lui avait donné de l'argent, il lui avait donné des terres en nombre énorme qui étaient incomptables d'orge, de blé, des centaines d'esclaves, une belle femme pieuse, une force physique, 14 enfants, une foi et un milieu pieux, des amis limités, bref, du
Normal.
bétail, des chevaux, des bêtes, et ceci pendant, Julien, plus de 50 années. Donc, Ayoub était vraiment
Excellent, c'est
là,
jusque-là rien à dire, quoi.
sur tous les plans, rien à dire. Mais alors, Allah a voulu l'éprouver. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours une épreuve quelque part. Et alors, du coup, là, ça a été la cata parce qu'il lui enleva son argent, ses terres, ses fils, ses filles décédèrent, son
Ah ouais, la
bétail
totale, quoi.
mourut, son argent partit. Il l'éprouva même par une maladie qui le rendit invalide. Il devint incapable de bouger. Ses amis supposèrent que sa maladie était contagieuse, s'en allèrent. Seul,
D'accord.
tu sais, dans ces
Ok,
cas-là, on voit les vrais amis.
c'est. Oui, C'est clair.
Et bien là, seule sa femme et deux de ses amis seulement lui restèrent fidèles.
D'accord, donc on passe d'un extrême à un autre.
Voilà, complètement, c'est la grande épreuve de la vie d'Ayoub. Alors sa femme le prit en charge, et alors qu'il lui restait plus rien, bah elle se mit à travailler et à ramener l'argent pendant 18 ans.
Ah oui, quand même, d'accord.
Courageuse, hein,
Sympa.
courageuse. Mais alors à un moment, elle en a eu marre, et elle dit à Ayoub, écoute, avoque, elle a fait quelque chose, parce que maintenant ça va, quoi.
Ouais.
Il est temps, l'épreuve a été longue, il est temps maintenant de changer ça.
Mmh.
Et alors, elle a même été obligée de se mettre en colère, parce que Ayoub, lui, il n'invoquait pas Allah. Bon, voilà, il le vivait comme quelque chose qui, c'était l'épreuve, et il fallait
Ouais.
la passer, puis c'était dans les mains d'Allah, donc au moment où elle la déciderait, ça le ferait.
Ouais.
Mais donc, sa femme s'étant mise en colère, elle demanda à Ayoub vraiment de faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, Ayoub se sentit obligé d'invoquer Allah et lui dit, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et à ce moment-là, Allah l'a entendu. Ça a pris
OK.
du temps, mais il l'a entendu. Et il fit exploser une source sous les pieds de son prophète, dont l'eau allait le guérir de toutes ses maladies de l'extérieur, mais
Formidable.
aussi de tous les maux de l'intérieur. Sa femme redevint jeune, et on voit comme quoi la famille a de l'importance. Elle lui donna naissance à 26 garçons et filles.
Ah, belle portée.
Voilà, patience, foi et endurance, parce que ça a été quand même plus de 18 ans. Et on
Énorme.
retrouve ça dans beaucoup d'écrits, cette durée, cette
Ouais,
longévité,
tout à fait.
cette foi qui va au-delà finalement de la croyance.
Complètement,
Donc, comment peut-on ramener ces vertus dans
ouais.
notre vie au quotidien de tous les jours? Parce que quand même, parfois, on
Ouais,
a besoin d'avoir
tu
et la
m'étonnes.
foi dans la vie, dans ce qui nous arrive, et la patience. Parce que des fois, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, ces choses, mais
Ouais, mais ça c'est pareil, je pense, c'est la société hein, qui nous a un peu conditionnés à ne pas être patients. T'imagines si on éduquait les enfants tous les matins à la maternelle justement à cultiver leur patience, je pense que des gens gagneraient quand même pas mal de temps. Hein. Je crois qu'on ne nous a pas appris justement à être patient. Alors après, il y a aussi le rôle des parents, mais on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'ils ont été aussi éduqués à ne pas être forcément être très patients. Mais effectivement, je pense que ça fait partie des valeurs qui devraient revenir. Ouais.
qu'est-ce que ça veut dire la patience, hein? Parce qu'en même temps, il y a une espèce d'attente de quelque chose, de quoi, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous la patience? Parce qu'on a peut-être chacun des fois des définitions
C'est
différentes.
possible, ouais, effectivement.
Tu
Ah,
mets quoi, toi, sous la
sous
patience?
la patience, ben moi, en fait, je le prends vraiment dans sa globalité et je pense qu'il faut être. C'est peut-être simple, hein, mais je le pense comme ça. Il faut être patient dans tout. Alors, c'est pas il faut, c'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est bien de la travailler. De travailler sa patience. Parce que de toute façon, rien, a priori, ne peut arriver comme ça.
En un claquement de doigts. Pourtant, on
Non.
aimerait bien. Je suis
On
sûre
aimerait
qu'il y a
bien. Hein.
beaucoup, beaucoup d'entre nous qui aimeraient bien. Tu vois, tu as envie de quelque chose, tu travailles pour quelque chose et hop, ça arrive.
Alors pour certains, ça arrive, parce qu'évidemment il y a toujours des exceptions, mais je pense que oui, de manière globale, on peut pas obtenir quelque chose quand on le veut et au moment où on le veut, peu importe ce que c'est. Donc, cultivons notre patience.
Ça rejoint un petit peu voilà, la philosophie finalement de ces peuples tunisiens qui sont dans quelque chose extérieur à soi qui nous dit ben voilà, ça arrive quand ça doit arriver.
Tout à fait.
Le destin, quoi, fatum.
Destin ou pas, pour ceux qui y croient ou pas, Fatoum, pour ceux qui y croient, tu crois au destin.
Le destin, oui.
Ouais.
Je crois qu'il y a une part de nous qui est actif et qui est acteur et qui peut orienter quelque chose. Et puis je crois aussi qu'il y a comme des scénarii préinscrits quelque part qui sont aussi porteurs en eux-mêmes d'une certaine orientation. Après,
Certainement.
c'est tout l'art de savoir quand il est bon d'être acteur dans sa vie et quand il est bon de suivre le flux du destin dans sa vie.
Donc de
Voilà.
s'écouter.
Et de s'écouter et d'avoir suffisamment foi. En soi et dans ce que la vie peut nous proposer de meilleur, mais parfois c'est pas toujours évident hein, d'être dans
Ouais,
cet
tout
état
à fait.
d'esprit-là. C'est vraiment un état d'esprit à cultiver et on voit bien qu'on n'est pas forcément tombé dans la marmite quand on était petit.
Non, c'est vrai. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction. En tout cas, y penser. Et essayer d'y penser de manière un peu régulière. La méditation peut aider pour ce genre de choses. C'est un outil qui est assez sympa. Après, il y a plein d'outils. On a tous des outils différents. Mais la méditation peut nous apporter quand même pas mal de choses. Et ça me fait penser que justement, moi, qui médite. Quand j'étais en Tunisie, j'étais dans une ville, enfin même dans plusieurs villages, à Douéré. C'est un village qui est perché en fait en haut d'une, comme l'équivalent d'une mini-montagne, on va dire. Et les énergies sont juste excellentes là-haut. Et donc j'ai médité évidemment et je le recommande à tout le monde. On a un panorama à 360 degrés sur le désert et sur les montagnes. Enfin, c'est juste magnifique. Et il y a plein de petits coins comme ça qui sont très sympas. Chez Bika aussi, c'est un lieu qui est excellent. C'est pour ça que j'ai envie de pousser les gens à partir hors sentier battu parce qu'on retrouve justement des moments de calme. Et ces moments de calme justement peuvent nous amener sur la méditation. Qu'on se comprenne bien, la méditation, ça n'a rien de religieux. C'est juste un moment de relaxation qui peut durer 5, 10, 15 minutes. Mais c'est un moment de relaxation. Après, il y a beaucoup de manières différentes d'aborder la méditation, mais c'est quand même à la base un moment de relaxation et de retour vers soi. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est un moment vraiment où on se pose avec soi et on peut soit être en méditation ouverte, c'est-à-dire observer et faire un super sentiment d'union
Tout
avec
à
la
fait.
nature qui nous environne, ou être vraiment concentré en soi pour accueillir
Tout à fait.
ben, les sensations agréables, les ressentis qui
Exactement.
sont bienfaisants. Donc effectivement, c'est ouvert au plus grand nombre et des fois il y a des
Totalement.
gens qui disent, moi, je ne saurais pas méditer.
Non.
Ça s'apprend. On
Ça
a
s'apprend.
tous dans notre cerveau une zone qui correspond à ces facultés, puisque ce sont des facultés tout à fait cérébrales que tout
Exactement.
humain a et
Tout
qu'on
à fait.
peut bah voilà, pratiquer en pratiquant,
Exactement.
développer. Et ça fait du bien,
Oui,
parce
plus que
qu'on
du bien.
plus que du bien, et on sait d'un point de vue neurophysiologique que ça va toucher certaines hormones qui vont nous aider, nous
Tout à fait.
sécréter, être dans des états
Tout à fait.
de bonheur,
Tout
hein.
à fait. Oui, c'est le bonheur. Alors, ce qui est pour les sceptiques, ce qui est bien, c'est que les scientifiques, justement, sont penchés sur la question et ça a vraiment été prouvé, donc scientifiquement, que la méditation quotidienne, je vous dis, ça peut être 5, 10, 15, 1 heure, le temps que vous voulez, mais est un vrai plus dans notre vie au quotidien. Ça apporte énormément de choses dont on n'a pas soupçon. Et bah, l'idée, c'est de commencer à essayer, de voir un peu ce que ça donne. Surtout, n'ayez
Voilà.
pas peur. Ça peut faire peur à un moment donné de se poser, de penser qu'à soi. C'est pas égoïste. Il faut essayer.
Oui, et d'autant plus là, du point de vue scientifique, la méditation, on rentre dans les hôpitaux. Maintenant, il y a des
Complètement,
hôpitaux qui sont
bien
assez en
sûr.
avance, comme l'hôpital de Marseille,
Tout à fait.
qui font que maintenant, il y a vraiment des séances de méditation. Alors après, quelle que soit la méthode pour entrer en méditation, que ce soit la sophrologie, que ce soit la méditation pleine de conscience ou autre, hein, il y a énormément
Énormément de formes.
de formes, donc chacun va trouver la forme qui lui convient.
Complètement.
Mais quand on est dans le désert tunisien,
Tu ne peux que méditer.
ces grands
Mais
espaces
oui.
pour pouvoir apprécier, en fait,
Exact.
c'est
Apprécier,
le
exactement.
côté de la vie, c'est la capacité que nous avons de pouvoir apprécier ce qui est là, ce qui est présent, qui va nous faire du bien.
Tout à fait.
Hors des contraintes d'un quotidien qui est souvent pesant, qui est souvent lourd. Et alors là, la Tunisie, pour ça,
C'est
dans ce
royal.
grand sud tunisien, c'est vraiment
C'est
royal.
vraiment royal, ouais. Oui, ça fait partie des destinations coup de cœur qui sont en plus vraiment à portée. Hein, on est vraiment juste à côté. C'est pas cher. Y a tout ce qu'il faut sur place. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, dès que je peux, j'y retourne. Ça, c'est sûr.
Voilà, alors moi je vais y retourner bientôt, enfin bientôt, le
Super.
temps passe vite, novembre.
Exact. Pour le fameux trek de
Et
sophrologie.
oui, donc
Tout à fait. C'est du 2 au 9 novembre.
du 2 au 9 novembre, et effectivement l'idée du voyage, de la découverte du pays, le désert pour être dans cette conscience de soi, ce ressourcement et sortir un peu voilà, du speed et du stress de la vie courante.
Vraie parenthèse.
Ouais, une vraie parenthèse, et là j'avais vraiment envie de le faire dans ce sud tunisien après l'avoir fait en Jordanie. C'était aussi
Ah oui,
merveilleux,
c'était top, ouais.
un beau désert. Mais là, la Tunisie, avec ce désert de sable, c'est aussi une autre expérience. Les tentes berbères et tous les lieux comme ça qui vont être en dehors des sentiers battus,
Tout
c'est
à
en
fait, tout
novembre.
à fait. Alors ça va ressembler à quoi? C'est un peu de trek, c'est
Donc ça sera du trek, de la marche, parce que la marche, c'est aussi des moments d'ouverture. Et à ce qui se passe dans son environnement, et en même temps à soi, si on a envie de discuter avec ceux qui accompagnent, on peut, mais on peut aussi marcher, on est soi-même avec
dans sa
soi-même,
bulle,
donc
ouais.
ça fait du bien. Et puis des moments de sophrologie, on va au moins 2 fois par jour, faire des exercices qui seront adaptés et au groupe et au pays, hein, donc à l'ambiance. Et puis des moments d'échange par rapport aux prises de conscience qu'on peut faire et puis à des petites choses comme ça qui peuvent aider à aller mieux, à sentir mieux. Donc un peu des
D'accord.
échanges qu'on pourrait dire philosophiques, mais une philosophie très pragmatique en fait, hein.
D'accord. Donc c'est du 2 au 9 novembre.
Oui.
On peut retrouver les infos sur ton site
Oui.
qui est...
www.evolutionformation.eu
D'accord. Et
et on peut
on peut le retrouver
retrouver.
aussi sur Néhorizon.
Oui.
Donc c'est www.néhorizon-travel.com et sur neobiennet.fr. C'est un bon moyen de partir en Tunisie, effectivement, quoi. En tout cas, pour voir une Tunisie totalement différente, quoi.
C'est ça, tout à fait.
Ok. Eh bien, écoute, c'était sympa, une fois de plus.
Eh bien voilà, nous arrivons, chers auditeurs, à la fin de cette émission. Donc j'espère que ça va vous donner envie d'aller voyager, quelle que soit la forme que vous pouvez prendre dans la Tunisie. Mais c'est vraiment, c'est un lieu à voir, à visiter, voire à revoir.
Tout à fait. Et surtout, mangez bien sur place. À bientôt!
À bientôt.